Les bons vivants se mettent à table sur Europe 1. Avec Laurent Mariotte.
Une étourderie ou une maladresse, même en suivant une recette, c'est vrai que ça nous arrive à tous et ça peut parfois être le point de départ de grands plats. Eh bien, en fouillant dans les grimoires de la cuisine française, on voit que de nombreuses recettes seraient nées par erreur. On a mené l'enquête et on peut vous dire avec la bande, attention aux fausses légendes, hein, Emmanuel Rubin.
Tiens, j'attaque avec le beurre blanc.
Oui.
Pour commencer,
la sauce
donc,
au beurre blanc.
Alors, sauce au beurre blanc, c'est une sauce à base de réduction de vinaigre, de vin, d'échalette, dans laquelle on va introduire petit à petit des morceaux de beurre.
Frais, et bien frais.
Bien frais. Ouais. Et tout cela va accompagner généralement les poissons et les poissons à chair blanche. On dit qu'une cuisinière nantaise, à la fin du 19e siècle, aurait oublié d'ajouter les œufs dans ce qui devait être une sauce hollandaise. À la place, elle aurait incorporé du beurre après avoir fait réduire ses échalotes. C'est donc une formidable bourde, mais qui va donner lieu à une mythologie saucière française. On l'appelle d'ailleurs du côté de Nantes le beurre raté. On l'appelle aussi le beurre nantais et donc le beurre blanc.
Eh ben, on aura un historien avec nous qui est Patrick Rambaud dans un instant. Il va nous dire si c'est vrai cette histoire. Ophélie Neyman, une autre recette née par erreur ou par accident selon la légende?
Il paraît, l'épée de nonne. L'épée de nonne,
ah, oui,
Laurent.
Vous qui avez failli rentrer dans les ordres.
Absolument. Et on m'a justement viré pour ça. Donc des beignets roulés dans du sucre et parfois dans des épices. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est une jeune cuisinière de l'abbaye de Marmoutier à Tours qui aurait créé ce beignet soufflé parce qu'elle avait fait, elle avait laissé échapper un vent. Alors elle était surprise et honteuse et pour camoufler un petit peu le bruit du vent, elle a fait tomber une cuillerée de pâte à choux dans la friture. Donc si ça vous arrive et que vous êtes en public, vite, un peu de friture,
ben voilà.
Un peu de pâte à choux et paf, un peu de nonne.
Et c'est carnaval.
Ouais, mais celle-là, je pense que vraiment, c'est du pipeau. Alors que le beurre nantais...
Oui, le beurre nantais,
peut se défendre.
Ça peut se défendre, je suis d'accord. Sans oublier la crêpe Suzette, les pommes soufflées, la ganache. Là aussi, c'est vrai qu'on parle d'un rattrapage, une extrémiste d'une recette qui partait en fiasco. Alors, est-ce trop beau pour être vrai tout ça? Eh bien, on pose la question, je vous le disais, à Patrick Rambourg, historien des pratiques culinaires et alimentaires. Il est l'auteur de La cuisine et gastronomie française chez Perrin. Il est chroniqueur chez Historia. Il est avec nous en ligne. Bonjour Patrick Rambourg.
Bonjour Laurent.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Alors la sauce au beurre blanc dont on vient de parler est un souvenir d'enfance pour vous en plus, hein, il me semble.
Oui, oui, tout à fait. Oui, avant de devenir historien, donc dans ma famille, il y avait deux recettes qui circulaient en fait, une recette de ma grand-mère paternelle, et une recette de ma mère. Et en fait, une des recettes, il y avait une réduction d'échalotes, du vinaigre, de vin blanc avec de la crème. Et l'autre recette, c'était seulement une réduction d'échalotes et du vinaigre. Bien sûr, après, les deux recettes sont montées au beurre. Et la différence de goût est très claire, puisqu'il y a un beurre blanc qui était un peu plus fort que l'autre beurre blanc. Et bien sûr, ces sauces nappaient le brochet ou le cendre que pêchait mon grand-père en bourg. Donc, ça me rappelle des souvenirs. Mais il y avait aussi une autre différence. C'est-à-dire, il y avait un autre débat dans la famille. C'est-à-dire, est-ce qu'on laissait les échalotes dans la sauce? C'est-à-dire qu'en principe, on passe un beurre blanc au chinois pour enlever les échalotes.
Ou
mais
Italie,
il y a une autre
oui.
école, voilà, il y a une autre école qui dit qu'on laisse les échalotes. Et là aussi, ça fait une texture bien différente puisque vous mâchez un peu les échalotes quand vous les avez sur le poisson. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte en fait que ce débat, d'une certaine façon, existait donc entre deux régions très proches. Hein. La région de Nantes et la région d'Anjou. Moi, je suis de l'ouest de la France, je suis de la région du Mans, donc en gros, entre les deux, en fait, on peut dire ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une revendication comme ça, notamment de la région nantaise, quant à l'origine du beurre blanc. Mais en approfondissant la recherche, je me suis rendu compte que, tout compte fait, le beurre blanc existait déjà au XVIIe siècle. Alors ça ne veut pas dire que la sauce était tout à fait la même, puisque les recettes, elles évoluent dans le cours de l'histoire, mais l'idée même du beurre blanc était déjà là, notamment avec cette petite pointe d'acidité avec le vinaigre, les échalotes qui étaient déjà là.
Eh oui, l'essentiel était là.
Et une sauce au beurre. L'essentiel était là. Et c'est surtout entre les deux guerres mondiales qu'il va y avoir une véritable mode ou un véritable phénomène de autour de la cuisine régionale.
Eh oui, ça permet d'affirmer en fait l'identité d'une cuisine régionale aussi. Hein, ces sauces qui sont des marqueurs de la tradition. Et ça participe, comme le disait Emmanuel Rubin, à une mythologie saucière en fait, quelque part.
Oui, c'est ça. Il y a vraiment l'affirmation des cuisines régionales. On veut montrer en fait que la cuisine française est diverse et variée et qu'elle est constituée d'une diversité de cuisines dites régionales. Mais on en vient à créer en fait des recettes, voire à créer des légendes. à la rigueur qu'on puisse dire qu'une telle cuisinière aurait pu inventer tel ou tel plat, pourquoi pas, mais aller jusqu'à dire que c'est parce qu'elle a raté une béarnaise qu'elle aurait oublié en fait de l'estragon, oui j'ai oublié de dire l'estragon de la béarnaise et les jaunes d'œufs, c'est un peu tiré par les cheveux. Quelqu'un qui sait cuisiner et qui sait faire la cuisine comprend très bien que ce n'est pas dû à une erreur, c'est autre chose.
Alors avant de jouer avec notre bruit de cuisine, Patrick Rambourg, j'aimerais avoir votre avis. Effectivement, on raconte que de nombreuses recettes de notre patrimoine culinaire sont nées par erreur. Votre avis, vous, l'historien qui aimait sourcer les choses, comme on dit.
Ben, mon avis est très clair. Hein. Moi, je ne crois pas du tout aux légendes. Je ne crois pas aux recettes issues d'erreurs, ou du moins d'erreurs flagrantes ou si grosses comme on nous les présente en fait sur Internet. Qu'il y ait du tâtonnement, en fait.
Oui,
qu'il y ait des essais. Oui, ça fait partie du travail du cuisinier et de la cuisinière. On essaie, on teste. Mais aller chercher cette idée que... voilà, un apprenti aurait fait tomber quelque chose et ça devient une recette, ou une cuisinière aurait oublié quelque chose et ça devient une nouvelle recette. Ça, historiquement, ça ne fonctionne
trop
pas.
Trop beau pour être vrai selon vous, mais j'ai ici au studio Coluche Monsieur Rubin, Emmanuel Rubin, qui est d'Odeline.
Oui, non, mais je comprends. L'histoire, c'est d'y croire ou pas, en fait. Vous êtes historien,
oui, sûr,
vous n'y croyez pas. Effectivement, tu as plutôt envie de dire, et moi j'y crois. Simplement parce que ça rend la cuisine plus belle, ça l'amène du côté des mythologies, c'est une espèce d'ingrédient invisible où tu te dis, peu importe que ce soit vrai ou pas, soudain, il y a une jolie histoire qui accompagne, c'est peut-être un roman régional comme un roman national, mais peu importe.
C'est votre côté romantique de la casserole, ça, Emmanuel Rubin.
Le problème de ces légendes, c'est qu'elles circulent un peu trop et que beaucoup trop de gens y croient, en fait.
Eh bien, je suis bien d'accord avec vous. Alors, c'est pour ça, restez avec nous à l'écoute, ouais. Patrick Rambourg, parce qu'on va revenir sur l'origine de la tarte tatin dans un instant, et vous allez voir que, eh bien, il y en a des belles et des pas mûres, comme on dit, à découvrir autour de la tarte tatin. Vous êtes au courant, j'imagine. Et je rappelle votre ouvrage, hein, Patrick, l'histoire de la cuisine et gastronomie française chez Perrin. Merci d'avoir été avec nous, Patrick Rambourg. Et bon week-end sur Europe 1.
Merci, au revoir.
Et à propos, on vous offre, ne l'oubliez pas, le Blender Power 5XL Connect de Magimix. Pour ça, il faut découvrir notre bruit de cuisine. On l'écoute, tiens. Ah, une action. Oh oui, une action qu'on peut pratiquer encore à cette heure-ci. Oh, j'ai pas aidé. Allez, 39,21, 50 centimes la minute, ou alors vous laissez vos coordonnées sur europe1.fr.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
On parle ce matin des recettes qui sont nées d'un oubli, d'une erreur ou d'une maladresse. Et on a gardé le meilleur pour la fin, c'est la tarte tatin. Mais juste avant, vous vouliez avoir un petit mot, Ophélie Neyman. On parlait de la sauce au beurre blanc et des maladresses nées
mais
en
oui.
cuisine.
Mais oui, regardez toutes les légendes. C'est toujours une femme ou alors un apprenti qui s'est trompé. On sait jamais
c'est
un grand chef. Enfin, jamais. Ça tombe toujours sur
non,
les mêmes.
C'est le syndrome du tronc clair.
Alors attendez, moi déjà.
Claire Dutronc de l'équipe, effectivement, mais qui réussit les quiches.
Je voudrais dire quelque chose sur la tarte tatin tout de suite parce qu'il y a plein de légendes. Mais là, quand même, la légende la plus fameuse, c'est que c'est quand même, et je pense qu'elle est vraie, c'est que c'est le dessert préféré de Dark Vador.
Ah, c'est vrai.
Mais
ah
oui, quand il rentre dans une boulangerie, il commande toujours 3 pains, une tarte tatin. Pain, tarte tatin.
Ah là là, parce que moi j'allais penser à Renaud,
c'est le côté belge.
Désolée.
Je vois que nous avons de belles références. Vous l'aimez comment, tiens, la tarte tatin, avec de la crème ou sans crème, Emmanuel Rubin?
Sans crème.
Dans le fruit. Et vous, Ophélie?
Pareil.
Ah, moi j'aime bien
morceaux.
La belle crème fraîche double de Normandie
des
à côté.
Des quartiers de pommes qui soient complètement fondants à l'extérieur avec un peu de chair ferme à l'intérieur.
Eh bien les amis, breaking news, à l'heure où je vous parle, nous sommes en mesure de vous dire que cette tarte n'a pas été complètement inventée par les sœurs Tatin. On va remettre les choses dans l'ordre avec la version officielle, la légende, avec vous, madame la procureure Ophélie Neyman.
Tout à fait.
Et je donnerai la parole à maître Rubin pour le réquisitoire. Mais en attendant, la version officielle de cette légende autour de la tarte Tatin, rappelez-la nous, Ophélie.
Voilà comment maître. On nous présente les faits. L'hôtel Tatin de la Motte Beuvron revendique la paternité de la recette grâce aux sœurs Tatin, qui auraient fait tomber par inadvertance leur tarte aux pommes et l'auraient recouverte de pâte pour éviter le désastre. Cela se serait passé à la fin du 19e siècle. Mais il semblerait que la création de la tarte renversée soit plus ancienne et que les sœurs n'ont rien créé de nouveau.
Eh oui, on raconte qu'il y avait déjà des tartes renversées qui circulaient dans la région. Maître Rubin, il a mis sa belle écharpe à la barre pour le réquisitoire. Pas de bras d'honneur, s'il vous plaît.
Non, ne vous inquiétez pas.
Je sais que c'est à la mode, pas de bras d'honneur.
Non, pas de Moretti. Mène Dupont, en revanche, puisqu'il n'y a aucune trace écrite, effectivement, Madame le procureur, pas de recette signée par Mesdemoiselles ou Mesdames Caroline et Stéphanie Tatin. Le grand Kurnonski, on en a parlé récemment, le prince des gastronomes, qui avait fait le tour de France des spécialités culinaires pour un ouvrage dans les années 20, n'a d'ailleurs trouvé aucune trace de cette tarte à l'hôtel Tatin lors de sa visite à la Motte Beuvron en 1922. Et il écrit d'ailleurs à l'époque, il y a une tradition dans la région de tarte avec de la pâte par-dessus, tarte aux pommes, mais c'est tout. Donc, il est fort probable que ce soit une recette de foyer, une recette domestique, mais effectivement, tout le monde la faisait chez eux, chez soi, mais pas les sœurs Tatin plus que les autres.
Usurpatrice.
Eh bien, c'est là que ça devient intéressant, chers auditeurs d'Europe 1. On accueille un témoin maintenant à la barre, c'est l'historien Gérard Boutet, spécialiste de la Sologne. Il a été interviewé par Francis Gillery, le réalisateur du documentaire « À la recherche du goût perdu » diffusé sur France 3. Écoutez bien, voilà ce qu'il dit à propos de cette légende.
Bernard Eden, qui est un historien de la Sologne et qui était très documenté, avait relevé qu'un boulanger à Romorantin, bien avant les sœurs Tatin, faisait ces sortes de tartes renversées, sauf que dans les aïeux des sœurs Tatin, il y a un boulanger, rue de la Varenne à Romorantin. Est-ce que ce n'est pas le même personnage qui fait déjà la tarte qui va donner la renommée à ses petites filles ou à ses filles. Je ne sais plus si c'est père ou grand-père. Mais il y a peut-être le secret, un secret familial.
Ah, peut-être un secret familial, on se croirait.
J'avais pas toutes les pièces du dossier aussi.
Alors, verdict, les sœurs Tatin n'ont rien inventé, alors la parole au procureur Ophélie Neyman.
Non, je voudrais rajouter une autre preuve au dossier. Cette preuve, c'est Urbain Dubois, le cuisinier, qui propose dans son dans son école des cuisinières, en 1871, il propose une tarte aux pommes, avec la pâte par-dessus et non en dessous.
Ah,
et les sœurs avaient alors entre 20 et 25 ans. Étaient-elles en mesure de déjà renverser la tarte ?
Oui, ou de copier cette tarte. Eh bien, rebondissement, les amis, avec la parole de Martial Caillé. Vous savez qui c'est ? C'est le propriétaire aujourd'hui, le chef cuisinier de l'hôtel Tatin à la Motte Beuvron en Sologne. Et voilà ce qu'il dit pour remettre l'église au centre du village.
L'idée de génie des demoiselles Tatin, c'est de l'avoir fait caraméliser, retourner. Ça, c'est une idée de génie. C'est quelque chose qui a été relativement longuement pensé pour sortir un dessert comme celui-ci.
Ah, eh bien nous y voilà. Elles n'ont pas eu l'idée de la renverser, mais ils ont eu l'idée de la caraméliser, la pomme, avec ce mélange de beurre et de sucre au départ. Donc elles ont quand même contribué à quelque chose dans cette légende. Hein,
je,
ce
demande
petit côté
la
caramélisé.
Je demande la
Vous
relax.
Vous demandez la relax, procureur Neyman.
Oui, enfin, on rappelle leurs prénoms, Caroline et Stéphanie. Ça me rappelle une certaine... c'est un rocher.
Une principauté.
Une principauté. Oui, c'est toujours douteux, je me méfie.
Est-ce que les sœurs de Monaco font de la tarte Tatin le week-end ? Ça, on ne sait pas, effectivement.
En revanche, qu'on peut ajouter tout de même, c'est que la tarte Tatin, elle doit sa postérité dans le monde entier parce que Louis Vaudable, qui était le patron du Maxim's de Paris dans les années 60-70, est allé déjeuner à la Motte Beuvron. Il a découvert cette tarte, il l'a ramenée chez Maxim's et tout Paris a commencé à copier la tarte et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans la postérité. Donc c'est encore une fois les Parisiens, car ici c'est Paris, qui ont véritablement permis au terroir français et normand de s'exprimer. Ça va, ou soloniaux, que sais-je, peu importe.
Mais vous avez raison,
relaxé, classé.
Non mais vous avez absolument raison. Encore une fois, on se rend compte qu'il faut un écrin autour d'une recette, d'une légende pour la populariser, pour qu'elle ait une belle histoire. Et le restaurant Maxime a mis à sa carte cette fameuse tarte. Et il y avait même une espèce d'espionnage industriel à l'époque, puisque le jardinier des sœurs Tatin connaissait les gens de chez Maxime et le gars de chez Maxime voulait à tout prix la recette des sœurs Tatin, vous voyez, qui était caramélisée à l'époque. On l'a bien compris, ben voilà.
Et une fois de plus, Paris pille les pauvres gens. Paris pille la campagne.
C'est ça, ouais, on a qu'à écrire une série noire.
Exactement. Et si vous voulez voir, tiens, en replay sur France TV, eh bien, à la recherche du goût perdu, spécial Centre-Val de Loire, vous en apprendrez de belles sur cette fameuse tarte Tatin, entre autres. Eh bien, merci Maître Rubin, merci Maître Neyman. Ne bougez pas, on vient dans un instant avec quelqu'un qui est une légende, lui aussi à sa façon. C'est le chef Mohamed Chek, vainqueur de Top Chef, un chef voyageur comme on les aime. Il arrive dans un instant sur Europe 1. Mais juste avant, on a de belles initiatives anti-inflation pour vous, chers auditeurs d'Europe 1. A tout de suite.